Notre pèlerin, qu'on a vu, est arrivé au temple de Jérusalem. Et je vous propose d'y rester en lisant le psaume 73. On va lire tout le psaume. Je lirai dans la version second 21. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. Car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaye la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Si je disais « je veux parler comme eux », alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté était grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot. Et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Première lecture, et pour nous mettre dans le contexte, Azaph, qui était Azaph, c'était un des musiciens du roi David, il était même le chef de chorale, et il a été nommé lui-même par David. Et je vous propose de lire dans 1 Chronique 16, 4 à 12, pour vraiment mettre Azaph dans son contexte. 1 Chronique 16, il faudrait lire 15 et 16 pour tout savoir, mais bon, on va se limiter un peu. 1 Chronique, chapitre 16, 4 à 12. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Azaph, le chef, Zacharie, le second après lui, et puis quelques mots et noms un peu imprononçables. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Azaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs, Benaja et Jacaziel, sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ce fut ce jour-là que David chargea, pour la première fois, Azaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Et je ne me suis pas arrêté parce qu'il y a une superbe louange. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples les hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements, de sa bouche. Voilà, les lectures pour ce matin, pour psaume 73, que le Seigneur bénisse sa parole et merci de nous l'avoir donnée. En fait, en quelque sorte, Asaph est le responsable de la louange et des chants dans l'assemblée. Mais aussi, il est fournisseur de la couronne, pour utiliser une expression d'aujourd'hui. Et on lui attribue plus ou moins une douzaine de psaumes sur les 150 retenus. C'est pas n'importe qui. Il est lévite, évidemment, chantre, musicien. Il a aussi donné une descendance. Il y a les fils d'Asaph et à ses frères. En fait, il est tombé dans le chaudron de louanges évangéliques, musicales, dans la marmite de l'adoration de Dieu. Directement, nous pourrions dire qu'il a réussi. Bon, en tout cas, il est béni. Il est super. Et il clame bien haut au début de son psaume, Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Jusque-là, parfait. Mais quand même, quelque chose qui ronge, vous avez remarqué. Il y a quelque chose qui le mine, qui l'exaspère. Le bonheur des méchants. C'est vrai, le vrai problème de ce psaume 73, c'est la prospérité du méchant. C'est pas que de la louange. Comment est-ce possible? Asaph est en colère. On dirait un peu qu'il est déprimé. Pourtant, un enfant de Dieu ne peut pas être déprimé. J'ai déjà entendu ça. Hein. Un chrétien ne peut pas faire de dépression. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un enfant doit toujours être joyeux. Et ne jamais se poser de questions quant aux actes de Dieu. Surtout s'il est responsable de chants, pasteur, ancien, même prophète. Quoique, Jérémie 12, 1, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Jérémie. Job 21,7. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur prospérité s'affermit avec eux et en leur présence, leur rejeton prospère sur leurs yeux, dans leur maison règne la paix sans mélange de crainte. Pourquoi? Ne dites pas que ça ne vous est jamais arrivé d'avoir des pensées pas très chrétiennes. Hein. Non, on n'en veut pas aux méchants qui réussissent. Non! Surtout si vous vous faites croiser parfois par une voiture qui passe. Hein? Hors limite, et que la veille, vous vous êtes fait photographier à 80 ou 70. Il n'aura pas de flash pour lui. Hein? Vous savez, ou alors celui qui est dans le rond-point qui menait un clignoteur. Là, hein? Oh, peut-être que je suis tout seul. Mais moi, je rends. Désolé. On a parfois difficile à contrôler notre esprit quand on voit quand même certaines choses qui nous paraissent injustes. Envers nous, phrase courante aussi, hein. Je n'ai pas de problème depuis que je suis chrétien. Et à une certaine époque, hein, on disait, viens Jésus, tes problèmes sont finis. Enfin, je n'ai aussi que des problèmes parfois. Et imagine simplement que tous tes soucis ou tes problèmes, tu dois les vivre sans Jésus. Ce n'est pas tout pareil, hein. Alors, comme Asaph, oui, bon, on est plein de perplexité. On nous étonne, nous, de l'attitude des méchants. Et on interroge Dieu, parfois. Peut-être pas vous, hein. Moi, oui. Qu'est-ce que tu fais? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais pour finir, Asaph, il a une description bien détaillée de ceux qu'il appelle les méchants. Il faut croire qu'il a bien regardé, qu'il les a bien observés. Hein. Il consacre donc 9 versets sur 28 que comprend le psaume. Vous allez me dire, au début, ce n'était pas marqué. On a compté les mots. Hein. Vous avez vu. Bon, là, il n'empêche qu'il déclare 140 mots sur 440. C'est presque un tiers pour expliquer ce qu'est un méchant. Vous allez me dire, ça rime à quoi de donner autant d'importance? Est-ce qu'on n'est pas tous pareils? Quand on discute de l'attitude de tel ou tel autre chrétien, au lieu de s'entretenir simplement sur la parole de Dieu, nous sommes perplexes. Pardon, je suis perplexe. Mais non, au travers de ces railleries, quand même, Asaph, il va quand même dévoiler une vérité qui interpelle. Verset 9. Le méchant, il parle. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaye la terre. Jusque-là, on ne dit rien de dangereux, moi, laisse-le parler. Il parle, c'est tout. C'est le verset suivant qui m'a interpellé et qui doit nous arrêter. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. C'est qui ce peuple ? Son peuple. Israël, le peuple de Dieu, se laisse influencer par le méchant. Il avale l'eau abondamment. Il gonfle tout, quoi. Et il fait douter. Les questions, comment Dieu saurait-il ? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Il avale tout. Tout ce que les autres disent. Est-ce qu'on n'est pas, nous aussi, influencés par les autres ? Par tout ce qui se passe, même parfois par les plus grands athées. Le psalmiste est en révolte contre le bonheur des méchants qui réussissent. Mais bon, moi aussi je vais m'arrêter parce que sinon toute la prédication sera sur les méchants. Et c'est pas le but. Enfin, tout chef de chorale engagé, qu'il est de souche sacrée, Asaph est tourmenté et il se rend compte qu'il est passé tout près de la chute. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, certainement, ou qu'ils pensent qu'il fait partie de ceux-là. Moi, je suis bon, pur, j'ai pas de problème, je fais partie du peuple de Dieu, je suis à son service, je suis chantre, lévite, chef, choisi par le roi. Donc, j'ai la vertu, je suis pur. Verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir. Toutefois, mon pied allait fléchir. J'allais trébucher. Mes pas étaient sur le point de glisser. Il s'en est fallu de peu que ma foi chancelle. Entre regarder ailleurs qu'à Dieu et à son Fils Jésus, on peut se retrouver dans la même situation. Pierre, qui marche sur la mer, mais qui s'enfonce quand il regarde cette mer et ses vagues déchaînées. Le mal, être intérieur d'un chrétien, vient parfois des éléments extérieurs. Mon fils est un rebelle. Ma fille n'accepte pas que je sois chrétien. J'ai des problèmes d'argent. Bien des enfants de Dieu, chrétiens, qui se croyaient debout, invulnérables, se sont écroulés, détournés de leur père. Et Asaph se rend compte qu'il a échappé belle. Il a échappé belle en décortiquant le bonheur des autres. Fût-il méchant. Et dans son écrit, il va dire 5 expressions. Il va exprimer ses états d'âme en 5 expressions. Et je vais vous les citer. Première, c'est au verset 3. J'envie le bonheur des méchants. Ah, l'envie, le désir, la convoitise. Je veux ce qu'ils sont. Je veux ce qu'ils ont. Je veux être heureux comme eux. Ils font ce qu'ils veulent et eux, on leur fout la paix. Ils ne sont pas ennuyés. Deuxièmement, verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Le découragement, oh c'est pour rien que je me suis sanctifié, c'est pour rien que j'ai fait ça. Ça sert à quoi d'être chrétien ? Chaque jour je suis frappé, tous les matins je suis repris. Pourquoi ? Persévérer dans la justice alors que les autres jouissent de la vie. Pourquoi ? On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Pourquoi ? Troisièmement, verset 16. Quand j'ai réfléchi, la difficulté a paru grande à mes yeux. La difficulté a paru grande à mes yeux. La perte de concentration, l'aveuglement, la bataille dans les pensées, les montagnes à déplacer, les géants devant nous, sur notre route. J'ai beau réfléchir, mon cerveau ne suit pas. Je ne comprends pas comment c'est possible. L'expression de Borida, c'est incroyable. Avec 4 P. Voilà, comme dit l'hôtelier, c'est un peu une sac qui n'en a. Qu'est-ce qu'on peut croire ? Pourquoi le méchant prospère ? Pourquoi ? Quatrièmement, verset 21, mon cœur s'égrissait. L'amertume. J'ai déjà bien discuté de l'amertume. L'amertume, c'est le sentiment le plus dangereux. Je vous ai sûrement déjà lu la définition du dictionnaire. Première définition, saveur amère. L'amertume des endives. Je sais, C'est un dictionnaire français, l'amertume des chicons. C'est pas bon.
Mais le deuxième expression, c'est sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur liée à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Ça, c'est autre chose que les chicons. Après l'envie, le découragement, la bataille dans les pensées, voilà l'amertume qui s'incruste, difficile à décroter. Hébreux nous le dit, Hébreux 12:15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, il dit même pas l'amertume, il dit une petite racine, pousse des rejetons ne produisant du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. La chose la plus dangereuse, c'est l'amertume. Il faut l'éliminer tout de suite. Et blablabla. Vous avez sûrement déjà raconté l'histoire de la baignoire. Maintenant, dans des douches, mais la baignoire, quand on mettait l'eau et qu'on était lavé et qu'on sort. Quand on vidait l'eau, il restait toujours une petite ligne. Si on ne la rince pas tout de suite, le lendemain, c'est du caillou, c'est incrusté. L'amertume, c'est pareil. Il faut nettoyer tout de suite. Cinquièmement, verset 22. J'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais stupide et sans intelligence, dit la version seconde 1910. J'étais comme une bête. La folie humaine, la bêtise humaine, on est très loin. Et à ce stade, j'ai mis une petite histoire que je vous ai peut-être déjà racontée, mais ce n'est pas grave. C'est une illustration, c'est quand Dieu créa la vigne, il planta quatre animaux, un agneau, un lion, un singe et un porc, et il voulait montrer les effets négatifs de l'alcool sur l'être humain. Au premier verre, tu seras doux comme un agneau. Au deuxième verre, tu seras fort comme un lion. Au troisième verre, tu agiras comme un singe. Et au quatrième, tu te vautreras dans la boue comme un porc. C'est tellement vrai. Envier le bonheur des méchants, c'est un peu comme l'alcool. Bon, au début, ça peut aller. Mais au fur et à mesure que les pensées s'incrustent et que l'amertume prend naissance, la stupidité prend la place et touche l'intelligence. Les raisonnements sont parfois délirants, mais parfois à côté de notre monde. Rappelons-nous quand même le verset de l'Épître aux Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne regardez pas le monde. Ne lui ressemblez pas. N'enviez pas les méchants. Nous devons être transformés, transfigurés, transplantés, comme j'ai déjà dit, un cœur de pierre, changé en cœur de chair. Il faut absolument être changé. Et quand j'ai repris ce texte aussi pour le Borinage la semaine dernière, il y avait une chorale du Borinage qui chantait la libellule, et c'était vraiment la transformation de cette fange, de cette petite larve en une très belle libellule qui s'en allait, un peu comme la chenille qui part et qui devient un papillon. On en a parfois assez de ramper sur la terre, je veux voler vers le ciel, assez d'être une larve amorphe, je veux être un chrétien heureux. Si c'est votre désir, c'est mon désir aussi. Envie d'autre chose que de regarder les méchants, envie d'autre chose que de regarder la mer, marcher sur l'eau. Et à un certain moment de sa vie, Asaph a compris qu'il devait se passer quelque chose. Il faut changer quelque chose. Qu'il devait vraiment prendre une décision. Et voilà au verset 17 ce qu'il dit, « Jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. » Je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. Alors je n'ai pas compris. Il était lévite, c'était une tribu mise à part. Il était chantre, il louait Dieu, il entraînait les autres, il était chef, il était responsable, mis en place par le roi lui-même. Il y entrait régulièrement dans ce temple. Il était là, toujours dans la présence de Dieu. Un peu comme nous, comme tous les dimanches, nous venons dans la présence de Dieu, nous chantons les louanges à Dieu, nous sommes de sang royal. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 2:9. Nous sommes même assis dans les lieux célestes, dira Paul. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans Jésus-Christ. Éphésiens 2:6. Nous sommes de race royale. Mais si on relit le verset 17 de notre psaume 73 jusqu'au bout, jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Où j'ai regardé à Dieu plutôt qu'aux hommes. Où j'ai considéré la vie dans l'éternité. Où j'ai compris la justice de Dieu. Et où je me suis laissé transformer, transfigurer, transplanter. Où je suis devenu papillon ou libellule. Mais dans tout ce cheminement des hauts et des bas, dans ce psaume, il y a quelqu'un qui n'a pas changé. Verset 22, la fin, « J'étais comme une bête devant toi », oui, le texte original dit « J'étais comme une bête avec toi ». Et le psaume 23 dit « Cependant, je suis toujours avec toi. Malgré tout, je suis toujours avec toi. » Asaph est conscient que malgré ses états d'âme, ses envies, ses ressentiments, ses idées préconçues, ses délires, ses amertumes, sa stupidité, Dieu est là. Il se rend compte qu'il est toujours dans la présence de Dieu, dans la présence de l'Éternel. Oh, mais pas de ses efforts à lui. C'est Dieu qui l'a saisi par la main. Verset 23, « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu m'as saisi la main droite. Je dirais, tu m'as pris de force la main. » Vous savez, si vous avez vu des enfants ou si on vous met au confit des enfants, quand un père aimant prend son enfant par la main, c'est généralement qu'il y a du danger. Sinon, il peut le laisser courir, il n'y a pas de problème. Mais quand on le tient par la main, c'est qu'il y a du danger. Et plus le danger augmente, plus on tient la main. On ne veut pas le lâcher. Notre Père Céleste fait pareil. Il nous tient par la main. Il nous saisit et il ne nous lâche plus. Parfois, oui, ça fait un peu mal. Mais il est là. Et il nous assure notre avenir. Verset 24, « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. » Quelle magnifique perspective de l'éternité. Dieu éternel veut que nous passions l'éternité avec lui. Alors, peut-être qu'il est temps de s'arrêter et d'entrer vraiment dans le sanctuaire de Dieu afin de voir comme lui y voit. Nous sommes toujours dans cette année de grâce que Jésus a proclamée. Alors, profitons-en. Je vous lis psaume 73 qu'on a déjà lu. Qui d'autre, verset 25, qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Et pour terminer, juste une petite réflexion sur notre Dieu. Dieu est désigné par plusieurs noms. Il y en a deux qui sont les plus utilisés. Il y a Elohim, qui dans nos Bibles est traduit par Dieu. C'est le Dieu créateur, Dieu de l'univers, Dieu de tous les hommes. Au début, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim créa les cieux et la terre. Et puis, il y a le deuxième nom, c'est Yahvé, traduit généralement par l'Éternel, dans la nouvelle Bible français courant, c'est le Seigneur. C'est le nom qui a été donné à Moïse. Je suis celui qui suis. C'est le Dieu de l'alliance, le Dieu sauveur, le Dieu éternel. Et si vous relisez le psaume 73, il commence par Elohim, Dieu créateur, et il finit par Yahvé, Dieu éternel, Dieu sauveur, Dieu Seigneur. Asaph, tout comme Job et bien d'autres, ont connu Dieu, le Dieu de l'univers. Ils l'adoraient, ils le servaient, mais au final, ils ont rencontré l'Éternel. Dieu sauveur, Dieu Seigneur, Dieu de l'éternité. C'est Job qui dira, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil est affiché. Alors puissions-nous avoir cette envie d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Mais attention, c'est dangereux. Parce que nous pourrions être transformés, transfigurés, transplantés.